Pulcini, qui est une des figures marquantes de la philosophie sociale en Italie. Je mentionne dans leur titre français au moins quelques-uns de ses livres, comme Le pouvoir d'unir, qui traite d'une manière approfondie la question du sujet féminin, La cura del mondo, le soin du monde, Care of the World, I suppose in English, et prépare en ce moment un ouvrage sur peur et responsabilité à l'âge global, ou à l'âge du global. Elena Pulcini est professeure à l'université de philosophie, donc sociale, à l'université de Florence. Et je lui laisse la parole pour nous présenter. Dites-le nous, Elena.
Le titre, c'est « Le don à l'âge du global ou à l'âge de la mondialisation ». Je ne sais pas qu'est-ce que c'est mieux pour la traduction française, on a mis les deux. Je disais avant, j'ai pris très au sérieux l'invitation d'Alain Cahier de faire un texte assez court, disons, et je l'ai déjà écrit comme ça de l'Italie. Donc, si vous voulez, surtout pour les anglophones, si vous voulez suivre, c'est à la page 213 du dossier, et ça sera plus facile. Je dépasse les limites, Marcel me fera signe, mais bon, j'espère que de rester donc dans le temps qu'on a à disposition.
Page 213.
Okay. 213, ok. Voilà, donc j'ai entendu parler c'est le matin du fait social total. Je reprendrai naturellement aussi ce sujet, mais je voudrais partir de la distinction entre holisme et individualisme que Alain Cahier avait proposé il y a quelques ans, en traitant le don justement comme le troisième paradigme entre l'holisme et l'individualisme. Je me propose ici d'examiner cet énoncé par rapport aux changements qui se sont produits justement à l'ère de la mondialisation, dans laquelle l'individualisme n'est plus seulement définissable à travers le modèle utilitariste de l'homo economicus, caractéristique de la première modernité de Thomas Hobbes à Adam Smith, tandis que l'holisme assume une forme inédite, celle du communautarisme. Ça, c'est un peu ma première thèse générale. Et donc, pour répondre au lexique de Marcel Mauss, on pourrait dire que la globalisation, la mondialisation s'annonce comme un fait social total, je dirais par excellence, qui ne concerne pas une sphère particulière, mais le tissu social tout entier, en impliquant le domaine économique, politique, culturel, anthropologique, écologique, etc. La mondialisation, en d'autres termes, paraît être le fait social total par excellence et rend de nouveau, à mon avis, nécessaire et légitime d'utiliser la notion de totalité que, surtout en philosophie, avait subi un certain déclin dans la période plus récente. En même temps, toutefois, la mondialisation ne se présente pas du tout comme un processus unitaire, mais plutôt comme un processus ambivalent, comme le décrit avec efficacité le concept de glocalisation proposé par Robertson, qui souligne la coexistence de deux réalités opposées et complémentaires. D'une part, en effet, on assiste à des processus globaux d'unification, d'homologation, d'homogénéisation, comme perte des limites territoriales produites par le marché, interdépendance des événements, nivellement culturel, etc. De l'autre, on constate qu'il y a des phénomènes locaux de fragmentation et de différenciation, comme le besoin d'identité et d'appartenance, inspiré, disons, produit par le besoin d'identité et d'appartenance, une nouvelle délimitation territoriale et etc. Je voudrais montrer qu'il correspond une polarisation entre un individualisme global et un communautarisme local à cette réalité ambivalente, et que cette polarisation est à l'origine de la configuration pathologique de ces deux dimensions. Ce qui produit d'une part l'atomisme, l'homologation, l'indifférence, le manque de lien, et c'est-à-dire ce que je définis un individualisme illimité, et de l'autre le ghetto, l'entropie, la clôture, l'excès de lien, ce que je voudrais définir un communautarisme endogamique. Donc, quelques aperçus sur l'individualisme, sur la nouvelle forme d'individualisme. L'âge du global marque de manière définitive la crise de l'individu souverain de la première modernité, c'est-à-dire justement de l'homo economicus, rationnel et clairvoyant, utilitariste et capable de projet. Une crise qui produit les deux aspects avec lesquels je propose de résumer les caractéristiques du moi global, l'insécurité et l'illimitation. À ce propos, je ne ferai, étant donné les limites temporelles, que rappeler rapidement deux figures représentatives, l'individu spectateur et l'individu consommateur. Le premier est une figure inédite, caractérisée par une insécurité face aux risques et aux défis globaux, du nucléaire au global warming, du terrorisme au virus mortel, ce qui se traduit par un sentiment d'impuissance dû à la perte de contrôle sur les événements. On peut voir là-dessus les écrits de Beck, Bauman et d'autres sociologues contemporains. Et ce qui s'y traduit aussi dans la passivité par rapport à la sphère publique, par une sorte de retrait narcissique et par la recherche d'espaces immunitaires qui donnent aux individus l'illusion d'être à l'abri des dangers. Le deuxième, l'individu consommateur, n'est pas une figure inédite puisqu'elle s'impose dès le passage de la société moderne à la société post-moderne. Mais la globalisation qui accomplit le passage post-moderne d'une société de producteurs à une société de consommateurs lui donne un nouvel élan. Les individus sont animés par des désirs sans objet, mobiles et interchangeables, alimentés par les pratiques de séduction et de spectacularisation d'un marché planétaire qui tend à coloniser de plus en plus toutes les sphères de l'existence, corps, politique, culture, etc., et à étendre le domaine du possible en justifiant l'illimitation des désirs. Tout en étant lui aussi caractérisé par des passions acquisitives comme l'homo economicus de la première modernité, l'individu consommateur paraît être animé par une attitude passive et parasitaire qui aboutit justement à l'entropie parce que l'utilitarisme clairvoyant devient un hédonisme ancré dans le présent, qui s'alimente de lui-même et qui se borne de fois en fois à exploiter ce qu'il trouve de disponible en demeurant indifférent à l'avenir et au destin du monde. L'individu consommateur est un individu à la fois vide et rapace qui essaie de contraster l'affaiblissement de sa propre identité à travers l'acquisition illimitée des choses. Le rapport parasitaire avec les choses, pourrait-on dire avec René Girard, le rapport parasitaire avec les choses en vient, pour ainsi dire, à engloutir l'espace, la relation avec l'autre, qui se réduit de plus en plus, pourrait-on dire avec Girard, à un rapport purement mimétique dans lequel l'autre joue le rôle symbolique de modèle rival à imiter et ou à dépasser dans la course coative à la possession de tout ce qu'il est possible de consommer. Les passions acquisitives subissent un processus d'anthropisation qui entraîne qui ont été définis les passions tristes, comme l'envie, le ressentiment et tout ça, source de conformisme, de socialisation, d'homologation et de solitude, de sourde compétitivité et de parasitisme. L'individu consommateur devient avide et fragile, en même temps agité et parasitaire, désirant et assujetti à la tyrannie des choses. Emprisonné dans ce qui a été défini la cage d'acier de la McDonaldisation du monde, qui uniformise et domine à travers le pouvoir de la séduction. On a donc, d'un côté, l'impuissance et l'indifférence du spectateur, enfermé dans une solitude atomistique et dans l'angoisse de l'insécurité, et de l'autre, l'illimitation, le parasitisme et le conformisme du consommateur, l'implosion des passions acquisitives, l'expansion des passions tristes. Dans les deux cas, on n'assiste pas seulement à l'affaiblissement du moi, mais aussi, évidemment, à la perte du lien social. Maintenant, encore rapidement, un aperçu sur qui se passe à propos de la communauté. Je voudrais dire que les pathologies de la communauté sont spéculaires à celles de l'individualisme. À cette situation que je viens de décrire de passivité et d'atomisme, de vide et d'impuissance, d'insécurité et de dépaysement, correspond la réactivation de la dimension locale de la communauté, étroitement lié à un fort besoin d'identité et d'appartenance, menacé par le déracinement et l'indifférenciation globale. Comme si, pour ainsi dire, la recherche de l'identité et du lien à l'âge du global pouvait prendre seulement ou surtout des formes essentiellement communautaires. En d'autres termes, on voit renaître un besoin de communauté que l'on peut considérer comme étant légitime en premier lieu, puisqu'il répond au déficit de solidarité de la société globale, si ce n'est qu'il prend toutefois des configurations pathologiques et destructives issues du fait que, à mon avis, le besoin d'identité et de lien qui en est le fondement s'exprime sous des formes essentiellement réactives et défensives. Par conséquent, il donne origine à des phénomènes de fermeture, de réinvention de l'ennemi et d'exclusion de l'autre. Le besoin communautaire revêt donc des formes que l'on pourrait dire tribales et entropiques, dans lequel le « nous » tend à se configurer, pour reprendre l'expression efficace de Richard Sennett, comme un pronom dangereux, à prendre des caractères régressifs et fortement autodéfensifs qui aboutissent à l'opposition « nous, eux » et à la réinvention de l'ennemi, exorcisé et exclu en tant qu'autre menaçant et inquiétant. À ce sujet, il suffit de rappeler les communautés de la peur, rappelées par Bauman, ou les communautés de danger, comme dit Beck, au sein de l'Occident comme en dehors, qui se basent simplement sur le partage de l'anxiété face aux insécurités engendrées par la société globale du risque. Et il faut surtout rappeler les communautés ethniques et religieuses qui se multiplient sur la planète en rétablissant des formes archaïques de violence et d'atrocité fondées sur l'exclusion réciproque et sur la déhumanisation de l'autre jusqu'à provoquer une spirale conflictuelle sans précédent. Il s'agit de communautés qui se fondent sur une absolutisation de l'identité et que l'on pourrait définir comme des communautés sans solidarité, de manière un peu paradoxale. Donc, si les pathologies de l'individualisme consistent en l'indifférenciation et l'atomisme, en la dépersonnalisation et l'indifférence, en l'absence de pathos et l'érosion du lien social, les pathologies de la communauté consistent en la fusionnalité et la fermeture anthropique, en l'excès de pathos et de violence, dans le rétablissement de formes englobantes et exclusives du lien social. On est donc en présence, comme je l'ai déclaré au début, d'une polarisation entre le moi, l'insécurité, illimitation, atomisme, indifférence et le nous, fusionnalité, entropie, violence, entre l'absence de lien et l'excès de lien. Ce qui est paradoxal, c'est que l'âge du global engendre, à mon avis, les conditions objectives pour le dépassement de cette schizophrénie. En d'autres termes, elle donne la chance, dans le sang de Georges Bataille, d'ouverture au possible, de récomposer cette polarisation parce qu'elle pose les prémices pour un lien planétaire qui rompe la logique de l'individualisme illimité sans tomber dans l'entropie destructive du communautarisme. L'interdépendance des événements, la radicalité des défis globaux, ce qui a été appelé la compression espace-temps, qui nous restitue l'image d'un monde fini et limité, rendent virtuellement évidente la possibilité d'une nouvelle forme de lien qui n'implique pas seulement cet individu, groupe ou nation, mais le genre humain tout entier. Et ce, avant et au-delà de toute différence et en dépit de toute inégalité indéniable. En somme, l'ère de la mondialisation nous transforme en une seule humanité, ou mieux, en un seul monde vivant, qui trouve un ciment inédit et inattendu dans une vulnérabilité commune. Je m'inspire ici en partie aux écrits de Judith Butler. Nous sommes tous unis par la vulnérabilité, nous sommes tous exposés aux mêmes événements et aux mêmes menaces planétaires, et tous liés les uns aux autres par l'interdépendance de nos vies. Dès lors, la question qui se pose est la suivante. Disposons-nous aujourd'hui, sur le plan anthropologique, d'une subjectivité capable de saisir la chance, capable de reconnaître cette potentialité? Je propose, le plus rapidement possible, de lire la réalité du don en tant que symbole et témoignage de cette possibilité. Le don récompose la polarisation parce qu'il rassemble la dimension globale et locale. Il représente, pour ainsi dire, l'événement le plus intrinsèquement global. Il suffit de penser au don aux inconnus de Jacques Aubou, tout en restant tout à fait local, concret, personnel, capillaire. D'une part, il rompt l'inertie du spectateur en opposant à la vocation immunitaire du moi global la participation émotive et l'engagement de chacun qui se reconnaît comme faisant partie d'une seule humanité exposée au même destin. Il témoigne d'un choix actif et conscient qui interrompt la passivité et l'indifférence du spectateur en le transformant, pourrait-on dire comme Boltanski, en un spectateur ému et agent, à savoir touché par le spectacle d'un naufrage, qu'il s'agisse de la souffrance des êtres humains ou du spectre de la destruction du vivant, devant lequel lui-même ne peut pas se sentir à l'abri.
On aura un problème de temps.
Je n'ai pas tellement, 3-4 minutes, ça va?
Sans te stresser.
Je ne sais pas, parce que... Bon, non, je préfère bien terminer et après on verra dans la discussion générale. Donc, à l'indifférence et à l'impuissance du spectateur, le don paraît donc opposer la réactivation de sentiments sympathétiques et la capacité de les traduire en actions concrètes et contextuelles, en pratiques solidaires. D'autre part, il rompt la voracité du consommateur, et ce, pas seulement parce qu'il oppose évidemment la logique, la gratuité à celle de l'acquisition, mais parce qu'il privilégie la relation avec les personnes au détriment des choses. Le sujet qui donne redécouvre dans la relation avec l'autre et non pas dans la sujet au fétichisme des choses, le fondement et le son même de sa propre identité. Il paraît agir en étant pleinement conscient que celui qui donne et celui qui reçoit sont liés par le partage d'une même vulnérabilité, fragilité, dépendance réciproque. Par conséquent, il oppose la pratique, la relation personnelle et le besoin de réciprocité à la dérive fétichiste et acquisitive du rapport avec les choses. Enfin, la pratique du don peut être lue comme ce qui naît de la capacité de décliner en positif la condition de vulnérabilité et de dépendance réciproque en opposant à l'individu illimité ce que je voudrais définir comme un sujet en relation. En second lieu, le don se configure comme une alternative efficace aux pathologies du communautarisme parce que tout en satisfaisant un besoin de communauté et d'appartenance, il interrompt la logique entropique, identitaire et fusionnelle du communautarisme tribal. Il oppose une forme de lien fermé, entropique et exclusif, une forme de lien ouvert, circulaire et inclusif. En d'autres termes, le don permet, peut permettre de reconstruire le lien social rongé par l'individualisme sans tomber dans le gouffre régressif du communautarisme. À la polarisation entre l'obsession du moi et l'obsession du nous, le don répond en rétablissant la relation moi-toi fondée sur la coexistence de la distance et de l'appartenance. Il devient un acte à la fois individuel et communautaire qui retrouve les aspects émancipatifs de ces deux dimensions en configurant la possibilité de sortir la fourchette que les pathologies de l'âge global ont produite. Le don, pourrait-on dire, oppose aux dérives d'une idéologie de la fraternité qui abolit la distance et oblige à des appartenances données et forcées, la valeur et la pratique de la solidarité. Mais pas seulement, le don paraît répondre aussi à ce double bind de la mondialisation issu de la coexistence du global et du local parce qu'il agit en tant que pratique concrète et contextuelle, mais aussi en tant qu'événement universel fondé sur la confiance dans la relation et capable de dépasser toutes les bornes et de créer des réseaux globaux de solidarité. Comme je l'ai déjà laissé entendre, il peut être reconnu comme l'expression symbolique d'un lien à la fois local et global parce qu'il réintroduit l'action concrète et territoriale, l'attention capillaire et personnelle tout en gardant une ampleur globale. Il devient le vecteur de ce qui a été défini comme une socialité d'archipel à la fois disséminée et horizontale, concrète et planétaire. Enfin et surtout, et je conclue, à la logique de l'identité qui est à la base du communautarisme ainsi que de l'individualisme, moi ou nous, le don oppose la force éversive de l'anonymat. Celui qui donne ne sait pas qui le recevra, il ne choisit pas les destinataires. Inversement, celui qui reçoit ne sait pas de qui le don provient à cause de la distance spatiale et temporelle. Toutefois, malgré l'anonymat qui le distingue, le don n'est pas du tout abstrait et impersonnel. Bien au contraire, il se configure comme un acte singulier et comme une pratique respectueuse de la singularité de l'autre. Il instaure une relation qui est anonyme et à la fois singulière, et c'est peut-être juste en vertu de cette coexistence paradoxale que le don devient le témoignage d'une nouvelle forme de relation qui, sur des bases objectives posées par l'âge global, peut recomposer la polarisation, une forme de relation dans laquelle la tension inaliénable envers l'être en commun, pour reprendre les mots de Jean-Luc Nancy, puisse coexister avec la valorisation et le respect de la singularité. Merci bien.